Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources du jour. Je suis vraiment ravie de démarrer cette exploration parce que aujourd'hui on va s'attaquer à un paradoxe qui est assez fascinant quand on observe les communautés religieuses très strictes.
Oui, c'est un phénomène super complexe en fait.
Complètement. Parce que sur le papier, elles semblent avoir tout compris, hein. Les rituels sont méticuleux, les textes sont mémorisés par cœur, la discipline est vraiment de fer.
C'est ça, la façade est parfaite.
Voilà. Et pourtant, dès qu'on gratte un peu cette surface bien lisse, on découvre parfois une toxicité relationnelle ou une arrogance, voire même une cruauté institutionnalisée qui contredit totalement les textes que ces gens prétendent défendre. Et cette dissonance entre la performance extérieure et la réalité intérieure, elle est juste vertigineuse.
Et le truc, c'est que cette tension, c'est probablement l'un des problèmes humains les plus anciens. Et les notes du docteur John Oswalt, sur les chapitres 58 et 59 du livre d'Ésaïe, attaquent très précisément cette hypocrisie.
Ouais, c'est le cœur du sujet.
Exactement. Ces textes anciens, ils opèrent vraiment comme un scalpel, en fait. Le but, c'est de séparer la véritable justice divine d'une simple, on pourrait dire, une gymnastique religieuse. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment d'explorer ce gouffre conceptuel.
Et surtout de voir la solution que le prophète propose, non ?
Ouais, de comprendre comment le prophète envisage une issue quand l'humanité s'avère totalement incapable de produire elle-même la moindre droiture authentique.
C'est un sacré programme. Mais avant d'entrer dans les détails un peu croustillants de la critique d'Ésaïe, j'aimerais qu'on s'arrête sur un détail technique qui est mentionné au tout début des notes.
Le fameux chiasme, c'est ça ?
Voilà, exactement. Le docteur Oswald insiste énormément sur la structure littéraire de ces chapitres, ce qu'il appelle un chiasme. Mais pourquoi c'est si fondamental, en fait ? Parce que, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à voir le lien direct entre une figure de style antique et la critique de l'hypocrisie religieuse.
C'est une super question. En fait, l'explication, elle réside dans la manière dont les textes anciens fonctionnaient, tout simplement. À l'époque où Ésaïe a été rédigé, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de caractère gras ni de surlignage pour dire « Hey, regardez, c'est ça l'idée principale du rouleau ».
Ah oui, c'est vrai, c'était juste des blocs de textes continus.
Exactement. Du coup, les auteurs utilisaient des structures géométriques pour guider le lecteur. Un chiasme, ça fonctionne un peu comme un entonnoir littéraire. Le texte présente une série de thèmes, disons A, B, puis C, et ensuite, il fait le chemin exactement inverse. Donc C', B', A'.
Donc c'est une symétrie parfaite qui converge vers un épicentre, en gros.
Précisément, ouais. Toute cette architecture, elle force l'audience à regarder le centre du chiasme, le point de bascule. Et dans le cas des chapitres qui nous occupent ici, ce point central, le sommet absolu de la structure, c'est l'intervention directe du Messie.
D'accord, donc on ne peut pas le rater.
C'est le but. La structure entière crie, en fait, de ne pas perdre de vue cette finalité, à savoir que la lumière de Dieu doit ultimement briller à travers l'obscurité humaine. Tout le diagnostic hyper accablant qui précède et qui suit ce centre, il n'est là que pour justifier la nécessité absolue de cette intervention.
Bon, décortiquons tout ça. La scène est donc bien posée pour le chapitre 58, et le portrait des Judéens qui reviennent de l'exil, il est frappant. Le texte les décrit littéralement comme « la congrégation absolue ».
Les élèves parfaits, quoi.
C'est ça. Ils cherchent Dieu tous les jours, ils aiment connaître ses voies, ils réclament de justes jugements. Franchement, n'importe quel leader spirituel moderne paierait super cher pour avoir une communauté aussi engagée et assidue.
C'est clair.
Mais le diagnostic du prophète, il tombe comme un couperet. En fait, toute cette ferveur, elle est vide. Et la source pointe en termes hébreux bien spécifiques pour expliquer ce décalage, le fameux mishpat.
Ouais, le terme mishpat, il est absolument crucial pour saisir l'ampleur du problème ici. Les traductions habituelles, elles le rendent souvent par justice ou jugement.
Ce qui sonne très tribunal, très légal en fait.
Exactement, ça donne tout de suite une coloration très juridique, très procédurale au truc. Or, dans la pensée biblique, le mishpat décrit plutôt l'ordre divin pour l'existence, l'architecture morale de la réalité.
Donc ça va bien au-delà de juste suivre des lois.
Ah complètement. Ça implique que chaque élément de la société, chaque relation humaine, doit fonctionner selon le design bienveillant de la création.
Du coup, les Judéens maîtrisent la chorégraphie des rituels à la perfection, mais ils bafouent totalement l'ordre divin dans le monde réel. C'est ça.
Voilà, l'harmonie n'y est pas du tout. Le texte montre une déconnexion qui est totale. Ils s'approchent de Dieu dans le temple avec une apparence de piété irréprochable, et puis ils sortent et ils détruisent cet ordre divin en écrasant leurs employés ou en ignorant complètement les plus démunis.
Ils ont juste confondu la forme et le fond.
C'est exactement ça. Ils confondent l'exécution d'une obligation religieuse avec l'alignement sur le cœur de Dieu.
Et puisque ces croyants sont intimement persuadés d'être dans le vrai, grâce à leur assiduité au rituel, où est-ce que cette fracture conceptuelle devient vraiment visible concrètement? Parce que la source met en lumière leur pratique du jeûne, et franchement, ça m'a fait penser à une mécanique très moderne.
Ah oui, l'analogie du distributeur automatique.
Ouais, c'est ça. En lisant l'analyse de Swalt, on réalise qu'ils utilisent leur spiritualité comme un distributeur automatique cosmique. L'idée est super simple. Tu insères la pièce de ta propre affliction, donc tu subis la faim pendant un jour, tu frappes sur le bouton de la machine et bam, tu exiges que le ciel te recrache une bénédiction, une protection ou de la pluie.
C'est du donnant-donnant.
C'est strictement transactionnel, oui.
Ce concept du distributeur automatique, il illustre parfaitement leur théologie qui est complètement défaillante. La manipulation du divin a littéralement remplacé la soumission au divin. Le docteur Oswald rappelle d'ailleurs un truc super intéressant, c'est que la Bible hébraïque, elle est profondément ambivalente face à la pratique du jeûne.
Vraiment? Ouais, on a l'impression que c'est partout pourtant.
Eh ben non, en fait. Les textes de la loi ne commandent de jeûner qu'une seule et unique fois dans l'année.
Lors du fameux jour des expiations.
C'est ça. L'objectif, c'était de manifester physiquement un deuil, une tristesse authentique face au péché de la nation. C'était en aucun cas conçu comme une sorte de levier pour faire pression sur la volonté de Dieu.
Donc s'infliger une privation, c'est pas une monnaie d'échange spirituelle.
Non, mais l'histoire des textes bibliques montre à quel point l'humain a du mal à accepter ça. Et là, Oswald cite un exemple fascinant tiré de la critique textuelle du Nouveau Testament. Tu sais, dans l'épisode où les disciples échouent à chasser un esprit impur.
Oui, l'histoire avec le garçon possédé.
Exact. Certaines traductions plus tardives font dire à Jésus que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais si on remonte aux manuscrits les plus anciens, les plus fiables qu'on a, le mot jeûne est totalement absent.
Attends, vraiment ?
Ouais, le texte original parlait uniquement de prière.
C'est fou. Donc des copistes ont délibérément ajouté le concept de jeûne plus tard. Mais pourquoi faire une chose pareille, en fait ?
La motivation probable, c'était d'associer la puissance spirituelle à une performance humaine mesurable, tu vois. S'affamer, ça semble héroïque. Ça donne l'illusion qu'on peut accumuler de la force spirituelle par la seule force de sa propre volonté disciplinée.
Alors que la prière seule, ça implique une dépendance totale, une vraie vulnérabilité.
Exactement. En ajoutant le jeûne, la tradition ultérieure a subtilement réintroduit l'idée que l'humain peut générer sa propre puissance en se privant.
Et le prophète Ésaïe, il est encore plus féroce concernant cette illusion de mérite. Dans notre source, il y a cette accusation selon laquelle le peuple jeûne pour, je cite, « se quereller et frapper du poing ». Oswald qualifie cette expression d'hyperbole sémitique. Mais j'aimerais bien qu'on clarifie ce terme. Le prophète veut pas dire que les gens organisaient des combats de boxe pendant leur jeûne, si ?
Non, rassure-toi. L'hyperbole sémitique, c'est une figure de rhétorique très fréquente dans le Proche-Orient ancien. Ça consiste à utiliser une exagération massive et hypervisuelle pour souligner une absurdité morale, pour vraiment frapper les esprits.
Donc l'image de la bagarre, c'est pour montrer le paradoxe.
Expose la schizophrénie totale de leur démarche. Ils réclament la compassion divine tout en exerçant une brutalité maximale sur leur entourage.
Ouais, et l'absurdité, elle atteint son paroxysme quand ils oppriment leurs propres travailleurs le jour même de leur jeûne. La logique en dessous, ça a l'air d'être genre, puisque je me prive volontairement de mon déjeuner, j'accumule un tel capital de sainteté que je peux me permettre d'exploiter économiquement mes employés sans que mon statut de juste soit entaché.
C'est une transaction malsaine.
C'est une perversion complète du fameux mishpat dont on parlait tout à l'heure. Mais du coup, si ce type de renoncement transactionnel, c'est une impasse, comment le texte redéfinit-il le véritable jeûne ?
La redéfinition opérée par le chapitre 58, elle est radicale. Le jeûne que Dieu réclame, en fait, ça n'a rien à voir avec une introspection morbide ou le ventre vide. L'attention est entièrement redirigée vers l'extérieur.
Vers les autres, donc ?
Ouais. Le texte exige de rompre les chaînes de l'injustice, de renvoyer libres les opprimés, de partager son pain avec l'affamé et d'héberger le sans-abri. La véritable privation, c'est pas de refuser la nourriture pour soi-même, c'est de renoncer à ses propres ressources pour garantir la survie de l'autre.
Une question de fond s'impose alors pour notre auditoire. Pourquoi cette insistance spécifique sur les marginaux ? Pourquoi est-ce que Dieu conditionne la validité de la relation spirituelle à la manière dont une société va traiter ses membres les plus vulnérables et les plus brisés ?
Alors là, l'analyse d'Oswald touche vraiment au cœur de la théologie de la grâce. Les opprimés, les affamés et les sans-abri, ils partagent tous une caractéristique commune essentielle. Ils n'ont généralement absolument aucun moyen de te rendre l'appareil.
Ah, donc on casse la logique transactionnelle.
C'est exactement ça. Investir du temps, de l'argent ou de l'énergie dans une personne qui est incapable de te rembourser cette dette, bah ça annule toute possibilité de transaction égoïste. Agir comme ça, c'est manifester la grâce à l'état pur. Et le divin fonctionne sur ce mode-là.
Il ne cherche pas un retour sur investissement.
Non. Dieu voit chaque individu comme une fin en soi, digne d'amour, et pas du tout comme un outil ou un moyen de s'attirer des avantages. Réfléchir l'image de Dieu, c'est adopter ce même regard, non mercantile sur l'humanité.
J'avoue que ça soulève une objection philosophique, et c'est d'ailleurs un point soulevé par un étudiant dans les notes du cours, qui m'a fait beaucoup réfléchir. L'étudiant demande en substance, bon, si la véritable justice consiste à donner sans rien attendre en retour, est-ce que l'obéissance des croyants n'est pas toujours un peu hypocrite, puisqu'on espère quand même secrètement que Dieu prendra soin de nous à la fin ?
C'est une excellente question, très profonde.
Oui, et si on prend l'exemple de Job, l'histoire de Job, elle est terrifiante parce qu'il perd sa famille, sa santé, ses biens, il n'a plus rien à gagner. Aucune transaction possible avec le ciel. Et pourtant, bah, il maintient son intégrité. N'est-ce pas ça la seule forme d'obéissance pure ? Est-ce que l'attente d'une bénédiction ne vient pas toujours corrompre la justice au final ?
Ouais, c'est une objection super puissante. L'idée que la vraie justice exigerait un stoïcisme complètement froid, où on se détache de tous nos besoins personnels pour obéir à Dieu dans le vide absolu, c'est une philosophie qui est très séduisante. Mais en fait, elle est complètement étrangère au texte biblique.
Ah bon ? Comment Oswald répond à cette tension alors ?
Bah, le docteur Oswald ramène la discussion au tout début des textes fondateurs. Il oppose deux modèles très distincts, le chapitre 3 et le chapitre 12 de la Genèse. Le vrai test, c'est pas de feindre qu'on n'a plus aucun besoin, c'est de choisir consciemment à qui on confie la gestion de ses besoins.
Ok, mais comment cette opposition entre les deux chapitres éclaire le débat ?
Le drame de Genèse 3, avec la figure du serpent, ça repose entièrement sur le soupçon. Le serpent, il insinue que Dieu retient les meilleures ressources. Et du coup, la réaction naturelle de l'humanité, bah, c'est de saisir le contrôle, de prendre par soi-même pour assurer sa propre sécurité.
Et c'est là qu'une exploitation des autres, en fait.
Exactement. Si je m'assure pas de ma propre survie et de mon propre confort, bah, personne va le faire à ma place. Mais en contraste frappant, Genèse 12, ça présente l'appel d'Abraham. Dieu lui demande d'abandonner sa structure de sécurité, sa terre, sa réputation, avec la simple promesse de pouvoir à l'inconnu.
C'est un saut dans le vide total.
Totalement. Oswald décrit ça magnifiquement. Il dit que tout le cosmos a retenu son souffle pour voir si, enfin, un humain allait renoncer au contrôle obsessionnel et laisser le divin combler ses nécessités vitales. L'obéissance d'Abraham, elle n'est pas du tout motivée par une soif de paiement, mais par l'abandon total de l'illusion de l'autosuffisance.
Ah, cette nuance change tout. Faire confiance à Dieu pour ses propres besoins, ça libère l'individu de l'angoisse de la survie. Et c'est ça qui lui permet par la suite de distribuer généreusement aux autres sans avoir peur de manquer.
Exactement. Le cœur est libéré de la peur.
Et cette dynamique, elle explique un autre élément central qui est souligné par Oswald. C'est le contraste absolu entre le faux jeûne et le respect du sabbat. Pourquoi est-ce que les prophètes martèlent l'importance du repos sabbatique, bien plus que celle des rituels de privation alimentaire ?
En fait, le sabbat, il opère comme le test ultime de cette fameuse confiance abrahamique dont on vient de parler. Faut se remettre dans le contexte d'une économie agraire antique. Refuser de travailler un jour sur sept, c'est un sacrifice financier qui est juste énorme.
Oui, c'est clair. C'est amputer volontairement ses revenus.
Voilà, c'est réduire sa production de près de 15%. Contrairement au jeûne hypocrite où tu sautes simplement quelques repas sans impact économique réel, bah, le sabbat, c'est une déclaration de dépendance vertigineuse. S'arrêter de produire, ça exige une foi viscérale dans le fait que le monde ne va pas s'effondrer si tu lâches les rênes pendant 24 heures.
C'est un vrai test de vulnérabilité, quoi. Mais du coup, que se passe-t-il à l'échelle macroscopique quand une nation tout entière rejette cette vulnérabilité, s'enferme dans la logique égoïste de Genèse 3 et refuse farouchement de pratiquer cette grâce désintéressée ? Quel est le résultat sur le terrain ?
Eh bien, le chapitre 59 d'Ésaïe décrit très précisément les conséquences de cet effondrement moral. Et le tableau dépeint par le prophète, il illustre une dégénérescence sociétale irréversible en fait. L'incapacité humaine à générer sa propre droiture devient effroyablement évidente.
C'est là que le langage d'Ésaïe devient incroyablement sombre et désorientant. La source décrit une population qui tâtonne le long du mur comme des aveugles en plein midi. Des individus qui grondent comme des ours et qui gémissent comme des colombes.
L'imagerie est hyper forte.
Ouais, ça renvoie à une humanité amputée de ses sens moraux. qui erre dans les ténèbres au beau milieu de la journée. Le diagnostic d'incapacité, il est total.
La poésie prophétique utilise des métaphores particulièrement acérées ici pour décrire la futilité des accomplissements humains quand ils sont déconnectés de l'ordre divin. Le texte parle de couver des œufs de vipères et de tisser des toiles d'araignées.
C'est quand même très graphique.
C'est brillant surtout. Les œuvres d'une société corrompue produisent un résultat qui est doublement tragique. Soit elles génèrent une destruction active, donc le venin de la vipère, soit elles aboutissent à une illusion d'utilité, la toile d'araignée.
L'image de la toile d'araignée, elle est particulièrement cruelle quand on y réfléchit. Essayer de se fabriquer un vêtement chaud avec une toile d'araignée, ça demande une dépense d'énergie monumentale. Tout ça pour un résultat qui va se déchirer au premier coup de vent et qui n'offre aucune protection contre le froid.
C'est ça.
C'est vraiment l'illusion de l'accomplissement, mais sans aucune substance morale.
Et l'application de ce concept à notre réalité contemporaine par le docteur Oswalt, elle donne vraiment à réfléchir. L'enseignement nous invite à observer nos colossales industries modernes, comme la production télévisuelle ou le divertissement de masse, par exemple.
Ah oui, où on engloutit des fortunes.
Des milliards de dollars, des millions d'heures de travail acharné, une ingénierie de pointe. Et pour produire quoi, fondamentalement ? Très souvent, le résultat se rapproche douloureusement des fameuses toiles d'araignée des AI. C'est un déploiement de génie humain qui ne nourrit pas l'âme et qui n'apporte aucune véritable réparation à l'injustice ambiante.
La crise décrite dans le texte culmine avec un constat clinique terrifiant. Ésaïe dit « Celui qui s'éloigne du mal se fait une proie ». La mécanique est super implacable. Dans un écosystème qui est entièrement basé sur la prédation et l'égoïsme, l'individu qui décide soudainement de jouer selon les règles de la grâce et de l'intégrité devient immédiatement vulnérable.
Il se fait dévorer par le système, tout simplement.
C'est ça. La société entière est piégée. Et même le divin est décrit comme stupéfait de constater qu'absolument aucun être humain ne possède l'intégrité ou la capacité d'intercéder et de briser ce cycle infernal.
La toile d'araignée s'est transformée en un piège mortel. Et la logique d'une toile, c'est que plus la victime se débat pour s'en extraire par ses propres forces, plus elle s'en mêle et s'épuise.
C'est sans issue.
Voilà. La libération ne peut matériellement pas provenir de l'intérieur d'un système corrompu. Une intervention externe, c'est la seule solution logiquement viable.
Et face à cette faillite systémique totale, le texte opère un virage spectaculaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le divin cesse d'observer le désastre et il décide d'entrer en collision directe avec l'histoire humaine. L'imagerie devient extrêmement martiale. Dieu s'équipe de la cuirasse de la justice, il met le casque du salut.
Et on voit tout de suite l'inspiration de l'apôtre Paul pour ses propres lettres sur l'armure spirituelle. Il trouvait indéniablement sa source ici.
Ah oui, il lisait clairement Ésaïe, c'est clair.
La continuité textuelle est évidente. Mais si on relit cela à la vue d'ensemble, l'aspect le plus fascinant, ça reste quand même la transformation radicale de l'imagerie au sein même du livre d'Ésaïe. Le contraste avec le célèbre chapitre 53, il est saisissant.
Tu veux dire avec le serviteur souffrant ?
Exactement. Dans le portrait du serviteur souffrant, le bras de l'Éternel, il était décrit comme une racine chétive, tu vois, qui sort d'une terre complètement desséchée. C'était l'image d'une vulnérabilité totale, d'une entité qui absorbe silencieusement et passivement la violence et le péché.
Une absorption sacrificielle. Mais quelques chapitres plus loin, du tout, dans Ésaïe 59, ce bras chétif a complètement disparu. Le texte met en scène un guerrier divin redoutable. Et l'interrogation majeure de notre source porte sur la nature de la cible.
C'est là qu'est la clé.
Contre qui ce guerrier dirige-t-il sa fureur, en fait ? Parce que l'auditoire antique, il aurait naturellement espéré qu'il vienne écraser les empires oppresseurs, l'empire babylonien ou les nations voisines hostile. Mais la cible est tout autre. L'attaque, elle vise le cœur même du problème, les péchés et la corruption interne des Judéens eux-mêmes.
Et l'identification de cet ennemi interne, ça change absolument tout le paradigme de la délivrance. C'est sur ce point précis que le docteur Oswalt identifie une dérive très fréquente dans certaines théologies modernes de la grâce. Il met en garde contre l'idée que le Messie interviendrait uniquement pour appliquer un filtre de justification légale, en fait.
Ce qu'il appelle les lunettes teintées de Jésus, non ?
C'est ça. La métaphore qu'il emploie, c'est celle de Dieu qui regarderait l'humanité corrompue à travers des lunettes teintées. Un filtre qui déclarerait artificiellement les individus innocents, mais tout en les laissant patauger dans leur toile d'araignée et leur injustice quotidienne.
Le Messie ne viendrait donc pas distribuer une simple amnistie pénale pour qu'on puisse continuer à pécher joyeusement. Mais du coup, comment le texte décrit-il le véritable mécanisme de cette délivrance ? Comment l'attaque du guerrier divin contre le péché permet-elle concrètement à un être humain de devenir réellement juste?
Le mécanisme y relève pas d'une fiction juridique, mais plutôt d'une chirurgie radicale. Le messie guerrier y vient pas détruire les humains coupables. Il vient détruire la puissance de l'instinct de Genèse 3, cet instinct de contrôle qui les maintient en captivité.
Donc il change les cœurs de l'intérieur.
Voilà. L'intervention divine vise à démanteler la toile d'araignée de l'égoïsme de l'intérieur, en remplaçant la nature humaine déchue par le propre souffle, le propre esprit du divin. La justification, le pardon des fautes, c'est que la porte d'entrée de ce processus.
Et le but ultime ?
La finalité, l'objectif absolu de cette invasion martiale, c'est de rendre les humains empiriquement capables de pratiquer le mishpat. L'ordre divin ne doit plus être une performance externe épuisante, mais ça doit devenir l'expression naturelle d'une humanité qui est transformée et guérie. Le chapitre 60, qui suit juste après, il confirme cette mécanique d'ailleurs.
C'est seulement après cette transformation viscérale que la lumière de l'humanité restaurée peut enfin attirer les nations, c'est ça ? Eh bien, le cheminement intellectuel qui nous est proposé par ces textes antiques est vertigineux d'actualité. L'analyse démontre vraiment la futilité d'une religion de la performance, où l'humain s'épuise à manipuler le cosmos par des rituels transactionnels tout en écrasant son prochain.
Ouais, c'est un miroir assez brutal.
La prise de conscience de notre incapacité absolue à tisser autre chose que des toiles d'araignée, c'est l'étape la plus douloureuse, c'est clair. Mais c'est aussi la plus nécessaire. Elle prépare le terrain pour la seule solution viable.
Laisser cette force externe anéantir notre obsession du contrôle.
Exactement. Laisser ce guerrier divin implanter une véritable justice. Une justice dans le marqueur absolu, on l'a vu, c'est la générosité radicale envers les plus vulnérables.
Le diagnostic antique, il pose un regard qui est impitoyable, mais infiniment lucide sur la nature de nos œuvres et sur l'illusion de notre autonomie morale. C'est fascinant.
Oui, et cette exploration de la notion de mishpat, cette fameuse justice qui consiste à donner à ceux qui sont dans l'incapacité totale de nous rembourser, ça soulève une question vertigineuse qui mérite qu'on s'y arrête pour ceux qui nous écoutent. L'architecture de notre société moderne, elle repose presque intégralement sur le paradigme inverse.
Le profit à tout prix, quoi.
Oui, les structures financières, l'évaluation du mérite, le concept même de code de crédit, tout est minutieusement calculé autour du retour sur investissement et de l'attente d'un remboursement, avec des intérêts bien sûr.
C'est clair.
Si la manifestation la plus pure de la grâce et de l'ordre divin contredit à ce point le code source de notre civilisation marchande, dans quelle mesure nos institutions économiques contemporaines nous empêchent-elles fondamentalement de comprendre la nature même de cette justice biblique ? C'est une pensée assez vertigineuse à méditer. Et c'est sur ce point qu'on va clore notre exploration d'aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans nos sources.
À la prochaine.